et bienvenue autour de cette table ronde sur la santé mentale. Qu'est-ce que la santé mentale? Qui concerne-t-elle? Pourquoi le sujet est-il toujours au cœur des débats médiatiques et politiques, même un an et demi après le début de la pandémie? Quelles sont les conséquences de cette crise sanitaire sur la santé mentale des Français et tout particulièrement des jeunes? Le quotidien de nombreux Français a changé, ils ont dû s'adapter, parfois difficilement à ces nouvelles habitudes, non sans conséquences. Les réponses avec nos experts, Émilie Defosse, Hugues Servière et Marc Guérin, qui interviendront sur le sujet de la santé mentale et comment aller mieux en cette période particulière. Sans oublier avec nous Lounès, Rachid et Youssef, trois jeunes qui ont dû adapter leur quotidien. Donc Émilie, vous êtes psychologue coordinatrice au conseil local en santé mentale à Nanterre. Hugues Servière, cadre au pôle santé mentale, à l'hôpital de Nanterre. Marc Guérin, vous êtes médecin du sport et conférencier sur les questions sport et santé. Et avec nous, Rachid, étudiant en sciences politiques, Youssef, étudiant en communication, et Lounès, qui est lycéen, c'est ça? Voilà, parfait. Vous allez bien?
Oui, ça va.
Très bien.
Qu'est-ce que la santé mentale?
Il y a une définition officielle, qui est celle de l'OMS, qui est très large. Le point le plus important, c'est de considérer que la santé mentale, c'est un équilibre et que la santé mentale, c'est pas juste une histoire de présence ou d'absence de troubles psychiques. On dit que 80% des déterminants de la santé mentale sont des déterminants sociaux. Donc on voit que ça n'a pas grand-chose à voir avec le soin et la psychiatrie, parce que souvent, ces deux notions se recoupent. Donc le point, c'est de garder à l'esprit que la santé mentale, c'est une notion très large qui englobe beaucoup d'aspects de nos vies. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on parle autant de santé mentale dans cette période de pandémie, parce que ça vient bousculer beaucoup de choses de nos habitudes, comme tu l'as dit, et que du coup, ça a dû transformer et un peu déstabiliser nos fonctionnements.
Est-ce que Kika, vous aurez justement une définition de ce que serait la santé mentale? Vous, en tant que jeune, par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la santé mentale?
Pour moi, pour rejoindre ce qui a été dit par notre collègue, je pense que la santé mentale, pour les jeunes, du coup, ça se résumerait pas à ça, mais ça reviendrait à un équilibre entre le bien-être psychologique et aussi les facteurs sociaux qui impactent ce bien-être psychologique. Donc, voir des gens, être bien entouré, faire des activités. Donc, pour les jeunes, c'est le côté social, je pense qu'il est beaucoup plus développé et plus important chez les jeunes. En tout cas, ça, c'est mon avis.
Et pour vous, Marc, justement, qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Est-ce que vous auriez des éléments, justement, à nous apporter
Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je n'ai pas de complément à apporter. Ce qui me paraît important, c'est la sensation de bien-être. Et comme on l'a écrit, dans la mesure où ce bien-être, c'est aussi une capacité de confiance, une capacité d'agir, une capacité de faire face à l'adversité, aux difficultés qu'on rencontre. Ça paraît paradoxal, le bien-être et les difficultés, mais la vie est faite de difficultés. Et la confiance en soi, le sentiment d'être capable d'affronter ces difficultés, je pense que c'est très important et c'est une forme de santé mentale, d'équilibre, qui permet de prendre les bonnes décisions.
Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que souvent, j'ai des consultations, je reçois des patients qui me disent « en gros, je ne voudrais plus avoir de problème ». Or, comme l'a dit très justement Marc, la vie, elle est faite d'événements, d'obstacles, de difficultés, et que ce n'est pas tant l'absence de ces difficultés que le sentiment qu'on va pouvoir les affronter et qu'on va être entouré, et qu'on ce sentiment de confiance, cette capacité d'agir qui est essentielle.
Et je me permettrai d'ajouter aussi une dimension qui est particulièrement importante, c'est que la santé mentale a sa place au même titre que la santé physique. Et c'est vrai qu'au cours des dernières années, on peut éventuellement, certaines personnes, mettre le plan physique en avant, contrairement sur le plan de la santé mentale. Et de mon avis, les deux sont liés, les deux ont des liens et les deux ont la même importance. dans la prise en charge, dans l'évaluation, dans le suivi de telle ou telle personne.
Et justement, il y a des définitions qui disent que la santé, la plus importante, c'est avant tout la santé mentale. Parce que si on peut aller, entre guillemets, on le voit parfois même dans le sport, on dit oui, mais c'est le mental avant, entre guillemets, les performances, et que si ça ne va pas mentalement, bah, ça ne va pas tout court.
Bah, c'est comme le dit Hugues, c'est-à-dire l'OMS dit qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est parce qu'on a beaucoup dissocié, et puis chez nous, culturellement, c'est inscrit depuis longtemps, on a dissocié corps et esprit. Mais dans les faits, tout ça, c'est la même machine. Et il est évident, on a beau être en parfaite santé physique, si on est déprimé, les choses sont plus compliquées. Donc je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les deux. Il y a juste à comprendre que tout ça est un unique système.
Et justement, comment est-ce qu'on fait pour aller bien?
Vaste question.
Ouais.
Ben, si j'avais la réponse, je serais très riche.
Ouais.
Encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Donc, à chacun de trouver des stratégies pour rétablir. Après, ça dépend où on se situe sur le continuum quand on dit qu'on ne va pas bien. Parce que c'est quand même je suis déprimée et je souffre d'un trouble psychique, d'une dépression ou d'anxiété ou de choses comme ça. Il y a quand même des nuances. Après, à chacun de trouver dans son environnement des choses qui vont l'aider à faire on peut être accompagné par un professionnel quand il y a des choses un peu plus lointaines, des souffrances ou des événements un peu compliqués qu'on a traversés. Mais encore une fois, l'entourage social est important. Le fait, évidemment, d'avoir un toit au-dessus de la tête, de gagner sa vie, ça assure un peu de sécurité. Pour être en bonne santé mentale, il faut déjà un minimum de sécurité. Ça, c'est la base, et c'est bien ce qui s'est passé là pendant la pandémie, c'est que beaucoup d'étudiants, de jeunes se sont retrouvés dans une telle précarité, une telle insécurité, que c'était très compliqué d'aller bien, de mener ses études à terme. Hein. Donc c'est ne pas perdre de vue que c'est un ensemble de facteurs et qu'on peut agir à travers le sport, on va le voir, à travers les liens sociaux. Puis il y a des gens, ça va être la lecture. Et puis c'est vraiment très, très intime.
Moi, je me rappelle, j'ai été jeune aussi. Maintenant, je suis vieux, même si je me sens jeune. Et je me rappelle que j'avais beaucoup d'anxiété sur comment je vais faire dans la vie pour me débrouiller, pour y arriver, etc. Et ce que je voudrais savoir, c'est si, en ce moment, vous ressentez cette anxiété, si elle a été aggravée par le fait qu'il y a eu ce confinement, il y a cette épidémie, on ne voit pas trop où elle nous emmène, il n'y a pas beaucoup de visibilité, finalement. Et si vous, ça impacte votre confiance en vous, ou même si ça vous crée des doutes ou des inquiétudes sur votre capacité à construire votre futur et votre avenir. C'est une question pour vous.
Ouais.
Moi, je me dis que il y a plein de chemins, même si on a des difficultés à surmonter, on a plein de chemins à bâtir, que ce soit niveau projet professionnel. S'il y a un projet qui ne fonctionne pas, en cherchant un autre et essayer de voir le bon côté des choses, malgré que ça soit les deux dernières années compliquées, il faut essayer de voir le bon côté des choses et créer des choses aussi, aller dans des associations, voir autre chose,
sentir utile,
exactement, voir le bon côté des choses. C'est ce qui va nous permettre de voir la vie en positif, entre guillemets.
Ouais, pour revenir un peu sur ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, Youssef. Et je pense que la peur de l'avenir, c'est chez les jeunes particulièrement, c'est quelque chose qui peut faire peur et qui fait en ce moment de plus en plus peur. Enfin, quand on perd notre job étudiant, quand on est seul dans un appart sur Paris, parce que je connais plein d'amis qui sont dans ce cas-là, qu'on est isolé socialement, enfin, c'est catastrophique mentalement. L'épreuve dans laquelle on se retrouve, c'est très très dur de se sentir bien après ça. Mais après, comme l'a dit Youssef, il y a des remèdes, donc il faut essayer de s'entourer socialement, je pense, de voir du monde. pour prendre l'exemple de jeunes qui ont quitté leur domicile, leur foyer familial pour venir faire leurs études sur Paris ou sur Lyon par exemple, ben, je trouve essayer de se faire des amis, enfin, essayer de sortir vraiment, se pousser à voir du monde, à faire des activités collectives, enfin, vraiment voir du monde et voir le bon côté de la vie. Pour petit à petit, pourquoi pas essayer de se sortir de cet état de dépression, parce qu'il y en a, c'est vraiment de la dépression. Et voilà, et après j'ai vu qu'il y avait aussi des solutions qui ont été mises en place à l'échelle universitaire, donc des psychologues, on a un peu plus mis les moyens dessus. Donc voilà, il y a tout un tas de solutions. Et je pense que vraiment essayer de voir du monde, ça ne coûte rien et c'est accessible à tous. Voilà. Donc dans la mesure du possible, essayer de s'entourer comme il faut.
Moi personnellement, cette anxiété, bien sûr je ne peux pas la ressentir autant que Youssef et Rachid, parce que je suis beaucoup plus jeune qu'eux et je suis qu'au lycée, mais malgré ça, avec le Covid, etc., on a peut-être plus encore peur de l'avenir, parce qu'on se dit qu'on est la première génération à vivre ça, et on se dit qu'on a une difficulté qui n'a jamais été ressentie avant, et donc ça peut accentuer cette peur de l'avenir. Déjà de base, moi, oui, j'ai une petite anxiété personnellement sur l'avenir, le futur. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que le Covid, ça a vraiment aggravé chez moi et chez beaucoup d'amis. Même si on est jeune, hein, malgré ça, ça nous inquiète. Quand
même. Ouais, vous ne vous projetez pas, en fait, c'est ça.
Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Hein.
Pardon. Ouais, j'ajouterais juste une chose que tu as un peu abordée sur l'investissement dans les associations, des choses comme ça. Il y a quand même un truc essentiel pour aller bien, c'est une question de sens. C'est-à-dire, quel est le sens de mon existence ? Et c'est une question difficile qui se construit au fil des années et qui, effectivement, là, pour certains, a été mise à mal parce qu'on a l'impression que tout s'est arrêté net, quoi. Donc, qu'est-ce que dans ce monde qui n'a pas l'air d'aller très bien, je vais pouvoir construire et qui va donner du sens à mon existence et qui va faire que je sais pourquoi je me lève le matin, quoi. Et qui, à mon avis, est une question centrale. Elle a l'air un peu comme ça, vaste, mais qui est une question autour de laquelle... Alors, on ne répond pas en 5 minutes. Hein. C'est l'histoire d'une vie, à mon avis, cette question-là.
Et justement, est-ce que vous savez, vous, vers qui vous dirigez quand ça ne va pas ? Oui.
Moi, ma famille, mes proches et j'ai mon association. C'est EMF Panthéon Sorbonne. Ça se situe à la Sorbonne. Et du coup, pour voir ailleurs, avoir une vie un peu sociale, je dirais faire des récoltes humanitaires, des distributions, des voir un peu de monde, surtout ces temps-ci, parce que c'est un peu dur pour tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faut voir le bon côté des choses. Il y a des gens, ils vivent dans des 2 mètres carrés, dans des résidences universitaires, dans des résidences privées, alors que certains, ils habitent chez leurs parents, chez eux et tout, voir des personnes, des étudiants qui malgré tout essayent d'arracher un diplôme à la fin et qui vivent dans des 2 mètres carrés, gardons le sourire en vrai. Donc, gardons le sourire.
Merci.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Youssef et je pense que tu me visais quand tu parlais de quand on vit chez nos parents et c'est tout à fait le cas. Moi, je suis pas le plus à plaindre. Moi, Youssef, je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre. Et donc, je suis d'accord avec toi. Et quand on va bien, donc faut garder le sourire. Et faut aussi essayer d'aider les autres quand on peut, dans la mesure du possible. Donc, faire des. Comme le disait Youssef, on est dans une association, et il n'y a pas que la nôtre, où on peut faire des distributions alimentaires, aider les gens, les jeunes particulièrement, qui ont perdu leur travail. Et voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, même nous, entre jeunes, pour s'entraider, aider les plus, je dirais, nécessiteux, ceux qui sont le plus dans le besoin, surtout les aider mentalement. Donc voilà, nous aussi, essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour aider les plus en difficulté parmi nous.
Et du coup, c'est extrêmement intéressant de vous écouter parce que nous, sur le plan professionnel, on remarque que la pandémie, la crise de Covid-19 a permis de mettre en lumière le maillage territorial associatif de soutien d'aide, vous parlez de l'université, vous parlez de maraude associative. Tous ces dispositifs-là ont été mis en lumière et permettent en tout cas d'apporter la visibilité nécessaire à l'ensemble du tissu associatif, du tissu aussi du soin si nécessaire, pour venir en aide aux populations les plus en souffrance.
Ouais. Et justement, on a interviewé des Nantériens au centre de vaccination à l'espace Chevreul sur la santé mentale et on écoute tout de suite.
La santé mentale pour moi, c'est le bien-être, c'est-à-dire l'épanouissement personnel qu'on peut ressentir. Le bonheur, même si on ne peut jamais vraiment l'atteindre, mais c'est la notion d'épanouissement pour moi. Voilà, le fait d'être bien dans son corps, dans ses baskets, dans sa tête, en ligne avec ses valeurs. Et voilà, tout le monde, hein, dès qu'on est tout petit, il faut faire justement super attention à ne pas négliger la santé mentale des tout petits. Moi, j'étais étudiante cette année, donc voilà, les étudiants, bien évidemment, cette année, pour moi, ils ont été un peu négligés, alors que pour moi, c'était, entre guillemets, très important. Et puis, jusqu'à la fin de ma vie, la santé mentale, c'est important.
Alors, important.
Ça va, très bien. Oui, ça va. J'avais juste peur de la seringue, mais sinon, ça va.
Donc, ça a été.
Il faut que les gens voient qu'on aille bien, et nous-mêmes. Mais je pense que la santé mentale, c'est plus important, quand même. Parce que si on n'est pas bien mentalement, on ne peut pas aller bien physiquement. Et je me demande si un jour, on pourra revivre comme avant. En soi, c'est compliqué, mais on s'adapte. Hein.
C'est l'équilibre psychologique. Bah, quelqu'un qui a un bon équilibre, et qui est équilibré dans sa façon de réfléchir et dans sa façon de penser. Et ça concerne tout le monde. On est tous concernés. Il n'y a pas de... Il y a personne qui en échappe. C'est important aujourd'hui de prendre le temps de réfléchir et de savoir où est-ce qu'on se situe.
Et nous, on n'a pas trouvé de défense non plus. Si on travaillait encore, oui, mais comme on ne travaille pas, on n'a pas vécu ça trop très pénible. Ça a été.
Il y a des personnes qui se sont senties enfermées. Le fait d'avoir le confinement, pas pouvoir sortir, pas pouvoir aller au cinéma, pas aller au restaurant, mais après, c'est pas des choses qu'ils vivent, eux. Donc forcément, quand on est à la retraite et qu'on a son petit cocon à la maison, voilà. Effectivement, quand il y a un entourage ou quand il y a des aides, c'est beaucoup plus simple de s'en sortir et de surmonter tout ce qu'on peut vivre, en fait.
Ouais, ouais, mais après, je pense que c'est assez de manière générale. Je pense qu'on a tous pris conscience qu'en fait, le bonheur, c'était pas s'acheter une voiture à 1 milliard d'euros, tu vois. C'était plus faire un repas en famille, en fait. Bah, on s'est rendu compte que c'était pas inné, c'était pas forcément... on le fait, voilà, aujourd'hui on se voit, on dîne en famille, mais demain on sait pas en fait si on pourra tous être ensemble. Et ça, je pense qu'il y aura effectivement un avant, un après. Vraiment, mes amis qui traversaient pour la plupart la même situation que moi, bah, en fait, on s'est vraiment tous soutenus, et après, j'en ai parlé aussi à mes chefs, en fait, à mes responsables, et voilà. Mais je pense que ça a été la clé. Si j'étais restée toute seule, ça aurait été compliqué, en fait.
Est-ce que vous êtes justement surpris d'entendre des personnes, là, pour le coup, des Nantériens, qui se portent bien malgré le contexte?
C'est normal, ils vivent à Nanterre, donc forcément, ils vont bien. Non, blague à part, je pense qu'il y a des communautés qui fonctionnent bien, il y a beaucoup d'associations. Enfin, Hugues parlait tout à l'heure du tissu associatif, de toutes les actions qui sont menées sur le territoire, justement, pour lutter contre l'isolement, les choses comme ça. C'est quand même une ville très active qui essaye de lutter contre ces difficultés-là. Néanmoins, il y a sûrement des gens un peu plus, je dirais, invisibles, auxquels on n'a pas accès. Et même moi qui travaille avec les partenaires sur la ville, parfois c'est compliqué d'aller chercher dans certains quartiers des personnes qui sûrement, eux, souffrent plus que les personnes que vous avez rencontrées. Et puis je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure tous les deux, cette pandémie, elle sert aussi à recentrer les choses sur l'essentiel. Et que quand on a un toit, qu'on va bien, que sa famille va à peu près bien, on se dit, on va dire que l'essentiel est là et que je vais bien, quoi.
Quand ça va pas, vers qui les personnes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, ne savent pas, en fait, vers qui se diriger, juste parfois pour parler, ou qui ont parfois un peu peur, justement, se dire d'aller voir un professionnel, où il y a cette distance, en fait, que ne devrait pas forcément avoir.
Bah, les premiers interlocuteurs, souvent le premier interlocuteur, c'est le médecin de famille ou le médecin traitant, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît et à qui on a l'habitude de parler. Et puis, je vais parler pour la ville de Nanterre, parce que c'est ce que je connais. Il y a quand même beaucoup de structures qui sont disponibles avec des psys. Alors on va le dire comme ça parce que c'est souvent ce qu'on entend encore. Aller voir un psychologue, c'est pas être fou. C'est partager avec quelqu'un des souffrances qui sont parfois difficiles à exprimer à ses proches parce que, bah, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, parce que les proches n'ont pas toujours la capacité à entendre ce qu'on ressent au fond de nous. Voilà, donc bah, il y a l'espace santé jeune pour les 11-25 ans qui est anonyme et gratuit, où là il n'y a pas que des psys, il y a des tas de soignants. On peut voilà, faire prendre en charge tout type de difficultés. Puis il y a des centres municipaux de santé où il y a des psychologues qui peuvent accueillir en consultation. Et puis ensuite, il y a les centres médico-psychologiques qui sont des consultations, là, qui sont liées bah, au pôle santé mentale que dirige Hugues. Et où on peut avoir des consultations avec un psychologue également.
Du coup, pour compléter ce que dit Émilie, donc les centres médico-psychologiques sont rattachés au pôle de santé mentale du centre hospitalier de Nanterre. Sur lequel évidemment des consultations sont possibles et aussi en cas de besoin, en cas d'urgence, il y a H24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, la présence d'un psychiatre de garde sur l'établissement, sur l'hôpital de Nanterre, sur les urgences psychiatriques qui peut être sollicité de jour comme de nuit pour une consultation si une personne en détresse et dirigé vers un service d'urgence. Donc il y a cette possibilité-là d'être pris en charge en urgence à tout moment de l'année, sur le plan à la fois physique, somatique, mais également sur le plan psychique, avec un accompagnement, avec un étayage, avec une équipe à la fois médicale et paramédicale, et qui permettent d'amorcer un circuit si nécessaire pour une personne qui est en souffrance.
J'ajoute juste une chose. En fait, le message principal que nous, on fait passer, c'est si vous n'allez pas bien, surtout, ne restez pas seul. Parlez-en à quelqu'un, qui que ce soit, un ami, un parent, un professionnel. Mais voilà, il y a des choses qui sont possibles. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler, parce que c'est souvent le premier obstacle. Les gens ont honte de dire qu'ils vont mal. Et du coup, se soignent pas. Et forcément, bah, quand on ne se soigne pas, c'est comme la santé physique. Généralement, ça ne s'arrange pas tout seul.
Ouais. Justement, c'est quoi le conseil local en santé ?
Alors, le conseil local en santé mentale, c'est un dispositif qui est porté par la ville et par le pôle santé mentale de l'hôpital de Nanterre, qui est un dispositif qui a pour vocation de coordonner les différents partenaires du territoire et de les faire se concerter pour concevoir ensemble une politique de santé mentale à l'échelle de la ville. Donc ça peut être mettre en place des parcours de soins en termes de santé mentale, mais ça peut aussi être mettre en place des actions d'inclusion sociale pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. On s'occupe aussi de situations psychosociales complexes. Enfin, voilà, c'est un champ assez vaste et on a aussi un axe dédié à la jeunesse.
Vous l'avez vécu comment, vous, par rapport à vos études ? Clairement, tout à l'heure, c'est ce que tu nous expliquais sur le fait que ça a été compliqué, enfin, si on peut revenir du coup là-dessus.
Comme je l'ai dit, le premier confinement qu'on a vécu... Le premier confinement qu'on a vécu, ça a été un peu difficile, mais ce qui nous a mis KO, c'est le deuxième. Enfin, c'était un confinement, couvre-feu, on ne savait pas trop en vrai, et c'est ce qui nous a usé. Après, moi, j'étais en phase de reprise d'études, sachant que c'était très compliqué pour moi. J'étais en cours en distanciel. C'était compliqué, je ne comprenais pas trop les cours. Les partiels que j'avais, c'était en présentiel, du coup je me retrouvais à pas savoir où étaient les salles avec mes profs, je les voyais pas comme dans l'écran, enfin il y avait un changement vraiment radical, et c'est ce qui m'a perturbé. Après, je dirais que j'ai essayé de faire avec, j'ai essayé de relativiser, et c'est ce qui m'a permis d'avancer, même si j'ai pas eu mon diplôme à la fin. Je me dis qu'il y a toujours un petit chemin pour avancer et pas pour reculer, parce que sinon, on tombe dans une déprime totale.
Ouais. C'est ça. Et puis, comme l'a dit Youssef, le premier confinement, enfin moi, j'étais encore en terminale, j'étais encore au lycée. Donc, le premier confinement, il a été dur parce que tout d'un coup, ça faisait 18 ans qu'on n'avait eu ni confinement, ni couvre-feu, ni rien. Et d'un coup, quand tu es jeune, tu le prends... Ouais, tu le prends un peu mal. Enfin, ça, c'est assez choquant. Et même au niveau des émotions, enfin, d'un coup, tu vois plus personne, etc. Et comme il l'a également dit, c'est le deuxième confinement, puis couvre-feu, puis confinement, puis couvre-feu, qui nous a vraiment mis un peu KO. Moi, c'était à la rentrée. Enfin, c'était juste après la rentrée. J'avais 2-3 mois de cours en présentiel. Et après, tout s'enchaînait en distanciel. Donc, on avait les cours, les examens. C'était pas évident à voir parce que même au niveau de la communication de la fac, enfin, ça n'avait pas l'air clair. Enfin, ça changeait toutes les deux semaines. On nous envoyait des mails pour nous dire non, ce qui était dit, c'était pas exactement ça. Enfin, même eux, ils naviguaient à vue. Donc, c'est pas très rassurant. Et comme on le disait tout à l'heure, du point de vue de l'avenir, enfin, on ne sait pas comment ça va évoluer. Après, moi, j'ai eu mes examens en distanciel également. Donc, ça, c'était plutôt une facilité de la fac pour nous. Mais je sais que dans d'autres UFR de ma fac ou dans d'autres facs tout court, enfin, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a eu des vraies tensions. Ça a été médiatisé aussi entre les étudiants et la police et l'administration de l'université. Donc, voilà, je pense que cette situation, elle était très, très compliquée. Et on ne sait pas où ça va aller, mais voilà, si ça continue comme ça, je pense que les jeunes, ils vont en avoir marre, enfin, ouais. D'avoir les cours en distanciel, être 8 ou 9 heures de suite devant un écran toute la journée, c'est vraiment très, très déprimant pour l'avoir vécu. Moi, comme je le disais, je suis chez mes parents, mais il y en a, ils sont dans 9 mètres carrés. Je pense à mon frère, il se rince. Bon, lui ça allait plutôt bien, mais je sais qu'être dans 9 mètres carrés comme ça, pas voir sa famille... Être toute la journée devant un écran, ça peut être très très vite déprimant. Et puis il y en a dans ma classe aussi qui ont tout simplement lâché. Voilà. Ils ont décroché, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc je pense que chacun il le vit différemment. Mais dans tous les cas, c'est une situation très compliquée pour tout le monde dans tous les cas.
Et pour rebondir sur ce que Rachid il a dit, c'est surtout pas une vie de commencer à 8h devant un écran et finir à 17h, 18h devant un écran. Le soir, on a plus de vie sociale, on a un couvre-feu qui se finit à 19h, voire 20h. Moi et Rachid et moi, on faisait du foot et on finissait en général à 22h30. Et, le couvre-feu, il a été décalé jusqu'à 20h. Du coup, mes cours, je les finissais à 18h, 18h30. Ça me laissait 1h30 de trajet. Du coup, on a plus de vie sociale. Que ça soit extérieurement, même les week-ends, on n'a plus de vie sociale. C'est pas une vie. Franchement, c'est pas une vie pour un étudiant, c'est pas une vie. Et je comprends la détresse des étudiants aujourd'hui. Je comprends pourquoi ils sont en détresse, parce que on n'a pas de vie sociale. Ouais. On n'a pas de vie sociale, on n'a pas de vie commune. On peut pas bouger, on peut pas sortir. Surtout que on est des adolescents. Les adolescents, ils aiment sortir. Que ça soit en week-end, que ça soit en soirée, que ça soit voir ses potes, on n'a plus de vie sociale, franchement. Et je comprends la détresse des étudiants aujourd'hui.
Et toi, Lounès, justement, au lycée, comment ça s'est passé
Au lycée, du coup, cette année, la rentrée 2020, quoi, en septembre.
Ouais, ou même lors du premier confinement, pour le coup.
Le premier confinement, je l'avais plutôt bien vécu au départ, parce que pour moi, c'était juste, il n'y avait aucun enjeu. C'était la troisième. Il y avait le brevet, mais je l'avais plutôt bien pris. C'est ce qui m'a fait mal, surtout la durée, en fait. Il était très long, et puis au bout d'un mois, deux mois, c'est vraiment beaucoup, et on se rend compte à quel point voir des gens, ne serait-ce qu'être en cours, c'est indispensable. Et puis après, il y a eu les vacances d'été. Et puis, on est revenu à la rentrée. Et la rentrée, on a eu un mois et demi un peu correct. Mais comme ça faisait 6 mois qu'on n'était pas allé en cours, c'était un peu, on va dire, l'euphorie de la rentrée. Parce qu'on se disait... moi, personnellement, je me disais, je revois encore des gens. Ça faisait 6 mois, je n'étais pas dans une classe. Et je ne pensais pas trop au travail. Et du coup, les retombées sont venues après. Et j'ai réussi, heureusement, à me reprendre. Mais je connais beaucoup de personnes qui... dès le début de l'année, en fait, on a eu du mal à reprendre les cours parce que il y a eu ce gros vide, en fait, au milieu de l'année. Et puis est venu en novembre la demi-jauge pour nous au lycée. Donc c'est déjà bien parce qu'on avait la moitié des cours en présentiel, mais c'était assez bizarre parce que la moitié du temps on était à la maison et quand on revenait en cours, on était 15 dans une classe. C'était déjà ça, mais il n'y avait pas cette ambiance de travail qu'on pouvait retrouver dans une classe à 30. Et malgré qu'on soit plus proche du professeur, c'était quand même... moi, en tout cas, j'ai eu du mal à, on va dire, travailler en cours cette année. Et je me rendais compte du travail que j'avais que quand je rentrais chez moi le soir. Et donc ça donnait une sensation de, d'être seul face au travail un peu. Et, parce que quand on était en cours, on, 15 par classe avec les masques, la distanciation, c'est un peu compliqué de suivre. Du coup, il n'y a que chez moi que je travaillais vraiment. Et du coup, c'est compliqué si on travaille que chez soi.
Et en plus, tu n'avais pas le lien aussi avec tous tes camarades de classe.
Voilà,
quoi,
c'est
voilà.
Ça. Ouais. La demi-jauge, ça a vraiment tout chamboulé. C'est, comme je disais, c'est déjà ça, parce que les étudiants plus âgés, ils ont eu zéro, pas de cours du tout. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré quand même avoir des cours complets, quoi, à 30. Et puis la journée, ça, c'est comme je le disais, c'est au début, je l'ai très bien pris. On revenait des vacances de la Toussaint. Le ministère avait dit oui, demi-cours. Je pensais pas trop à l'avenir à ce moment-là. Je me disais, ah, bah, c'est super. Puis un mois, deux mois, d'accord, mais 3 mois, 6 mois, 7 mois, toute l'année comme ça, c'est très long à la longue.
Ouais. Je voudrais juste rappeler un truc. L'être humain, c'est un animal social, et particulièrement à vos âges. C'est-à-dire que c'est pas juste l'histoire des étudiants qui ont besoin d'aller boire des coups et faire la fête. C'est que ça fait partie de leur construction. Ils sont encore à un âge où ils sont en train de construire leur identité, leur fonctionnement. Et ça se fait à travers les interactions qu'on a avec ses pairs. C'est plus un âge où on a besoin de ses parents ou de... Voilà, c'est vraiment à travers les rencontres qu'on va faire, on va dire, symétriques, enfin, parmi les siens, qu'on va construire son identité, qu'on va apprendre ce qu'on a envie de devenir, etc. Et que c'est vraiment un point essentiel. Et c'est pour ça aussi que ça génère autant de souffrance, parce qu'on se perd un peu quand on est tout seul à cet âge-là.
Oui, donc globalement, ce que j'ai observé, c'est d'abord, très généralement, parce qu'il y a des gens qui ressentent une souffrance et même une exaspération, une révolte, mais très généralement, et en particulier chez les jeunes, une grande pudeur pour parler de ces difficultés, parce qu'ils ont intégré l'idée que c'est peut-être pas aussi important que ça, et c'est pour ça que c'était bien que tu le rappelles, Émilie, ça fait partie de la construction, ça fait partie du boulot, entre guillemets, d'échanger entre vous pour construire vos projets. Et on le disait tout à l'heure, un bon moyen de lutter contre le sentiment d'anxiété, de dépression, c'est le contact avec les autres. Or, justement, on est privé de ce contact. La deuxième chose que je note, et malheureusement, ça s'est aggravé plus avec le Covid, c'est la dépersonnalisation de la relation. On construit son espace personnel sur Internet, dans tel ou tel machin. On a son code, on a son identifiant. Enfin, on ne voit plus jamais personne. Et même comme ça, c'est difficile de remplir les papiers. Et on a le sentiment de petit à petit être déconnecté, débranché, dissocié de la société. Oui. Là-dessus arrive le Covid. Et c'est très, très fatigant C'est une fatigue supplémentaire de faire de la téléformation, des téléconférences, d'apprendre par téléconférence. C'est plus dur que d'assister à un cours dans une fac, d'assister à un cours avec les autres. Quand on n'a pas compris, on a rapidement l'échange. Il y a une circulation de l'information et du savoir qui se produit, qui là est absente. Et en fait, ça ne remplace pas. Or, l'évolution de la société va vers quelque chose qui, de mon sens, n'est pas satisfaisant, qui devrait nécessiter une alerte, parce que on passe plus de temps devant son ordinateur que de parler avec les autres. Or, ce qui est enrichissant, finalement, c'est de parler avec les autres, contrairement à ce que pourrait laisser penser la situation ou les dispositifs qui se mettent en place. Donc, moi, je pense que vous avez beaucoup de mérite. On voit à travers ce que vous dites que vous êtes dans le travail, vous essayez de minimiser des choses parce que, quelque part, il faut quand même aller à l'essentiel, il faut rester positif. Mais en fait, cette privation, elle est dommageable, elle n'est pas bonne. Et effectivement, il faut essayer au maximum de trouver les solutions pour compenser. Et ça ne sera pas avec l'informatique et Internet, ça aidera, la télévidéo, mais ça, à mon avis, ça ne remplacera pas. Et puis, c'est une évolution dépersonnalisante.
Moi, juste un petit mot pour compléter l'ensemble des échanges avec mes collègues. Le maître mot dans cette situation, ça a été se réajuster, se réadapter et aussi être créatif. Au-delà des difficultés qui ont été générées par la pandémie, au-delà des difficultés notamment pour les jeunes dans l'apprentissage et aussi dans l'interaction sociale, parce que moi, je parle à titre personnel, lorsque j'étais étudiant, j'avais puisé l'ensemble des ressources avec les échanges que j'ai pu avoir avec, avec mes camarades de promotion. Et sans eux, j'aurais eu d'énormes difficultés. Donc, vous avez quand même réussi à créer du lien difficilement, mais en tout cas, vous avez essayé de garder la tête hors des difficultés, hors de l'eau. Et c'est admirable. Donc, cette créativité, cette adaptabilité face aux situations, nous aussi, sur le soin, on a dû être dans cette situation-là. Se réinventer chaque jour, s'adapter par rapport à la pandémie, s'adapter dans nos organisations, s'adapter dans l'accueil des patients pour offrir le meilleur accueil possible dans cette pandémie, dans cet afflux, de patients. Donc chacun à son niveau, dans sa profession, a réussi en tout cas du mieux qu'il pouvait à s'adapter et à se réajuster. Et je pense que c'est l'enseignement qu'on peut tirer, bien qu'il y ait évidemment des difficultés et des conséquences qui ne sont pas négligeables.
On est parti rencontrer les adhérents du GEM, le Bon Accueil, le groupe d'entraide mutuelle qui est une association qui permet d'accueillir les adultes en situation de fragilité psychique autour de différentes activités. Un lieu du coup où l'on rompt tout simplement avec l'isolement. Et ils reviennent justement sur la notion très importante du lien social.
Je me suis présenté au GEM, ça va faire bientôt 6 ans. C'était pour rompre avec l'isolement, parce que j'ai pas de famille. J'ai fait beaucoup de connaissances ici. Voilà, et puis ça m'occupe, vu que je travaille pas actuellement. Je suis en situation de handicap. Voilà, donc heureusement que le GEM, il existe. Parce qu'avant, j'angoissais. Hein. J'étais tout le temps en train d'angoisser. J'avais pas de but, quoi, en fait. Ici au GEM, il y a toujours une bonne ambiance ici. Ça se passe toujours bien. Depuis que j'y suis, j'ai jamais vu de problème entre les adhérents.
L'intérêt du GEM, c'est vrai qu'on est sensibilisé à ces problématiques. On voit que le handicap psychique, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens, qui a des conséquences qui peuvent être assez prononcées et qui peuvent surtout générer de l'isolement. Et on va dire que nous, c'est plutôt sur ce versant-là, c'est sur l'aspect le trouble psychique, on peut vivre avec. Il y a, alors avec traitement ou pas, que ce soit des traitements médicaux chimiques, disons, ou alors des accompagnements psychologiques, on peut vivre. Mais l'isolement, par contre, vivre avec, c'est plus compliqué. Et là, c'est vraiment, c'est ce que j'aime proposer, hein, c'est de pouvoir faire en sorte que on limite les dégâts que cause le fait d'être seul.
Brahim, je connais depuis 10 ans, je vais au GEM. On fait des activités, on fait des sorties, on va à la mer, on va... Ah, heureux. Moi, je suis malheureux. Mais ça me convient. Mais de galérer dehors ou... Moi, j'ai connu le GEM, sinon j'aurais galéré dehors. On discute, on prend un café, on fait des jeux, on va au cinéma, on paye 3 euros, on fait des repas. C'est bien. 3 euros, c'est pas cher, c'est pas 32 euros ou 30 balles. Et c'est des bons repas. On rencontre personne, les gens ils se méfient de toi, ils voient l'apparence, ils te regardent de travers, ou je sais pas, il y a plein de choses. Ils jugent ton handicap, ils voient que t'es handicapé, ils le voient, de toute façon ils le voient. Quand je parle avec des gens, ils le regardent, à façon de parler. Ok.
Et on se retrouve avec des personnes qui peuvent partager un vécu. Le jugement des autres, pour beaucoup d'adhérents du GEM, c'est quelque chose qu'ils ont en commun.
Et je suis au GEM depuis pas longtemps. Le GEM m'apporte beaucoup de choses utiles, agréables, pour ne pas rester chez moi et tout. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes et d'autres collègues. L'esprit du GEM, c'est de pouvoir, pour moi, être actif dans un groupe, maintenant, tel qu'il soit.
Les activités qu'on propose, il y a les activités qui se passent ici, à l'intérieur de nos, dans notre local. Et ça peut être alors, classique, les jeux de société. Mais comme on a fait hier un café philo, donc une discussion sur des thèmes aussi variés que possible. Hein, à chaque fois, on change de thème, donc ça renouvelle les sujets. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des activités artistiques. Chaque adhérent peut proposer des activités, de les animer. Il y avait des ateliers écriture que proposait un adhérent. Ça peut être des activités culinaires. Maintenant, on peut à nouveau faire des repas au GEM. Le but dans ces activités qu'on fait plutôt sur le côté citoyen, c'est de s'ouvrir sur l'extérieur et dédramatiser tous les troubles liés à la santé mentale, toute la fragilité que chacun peut connaître. Se sentir déprimé, il n'y a pas grand monde qui ne l'a pas vécu une fois dans sa vie. Après, ça peut être plus ou moins long. Mais malgré tout, que ce soit un court instant, on peut avoir besoin d'aide. Cette aide, nous, on n'est pas médical. Ici, on n'offre pas de soins. Mais on offre un endroit dans lequel on peut être ensemble, peut passer un bon moment et se sentir bien, en fait, malgré cette fragilité. Donc ne dramatisons pas. C'est quand même possible de vivre et de vivre bien, même avec un épisode de fragilité psychique.
Les gens, ils me jugent pas ici, parce que comme ils ont des difficultés, c'est pas les mêmes que moi, mais ils ont des difficultés, donc ils me comprennent bien. Les gens, ils me jugent pas ici, oui. Quand il n'y a pas de GEM, je me sens un peu perdue parce que je ne sais pas ce que je vais faire comme activité et tout. Je vais tourner en rond et voilà, je me demande ce que je vais faire dans la journée. Parce que sinon, si je n'ai pas de GEM, je tourne un peu en rond en fait. C'est ça que je fais dans mes journées. Je me promène, mais j'ai l'impression que je tourne en rond parce que je me balade dans les magasins, dans le jardin. Enfin, je fais d'autres choses. J'essaie de voir un peu des amis aussi, mais j'ai l'impression que je tourne en rond quand je n'ai pas de GEM, en fait, quand je n'ai pas d'activité.
Par exemple, est-ce que la santé mentale est-elle toujours vue comme une maladie ? Pour certains, ce n'est pas quelque chose qui est vu comme un élément de base, comme un élément important dans la santé, mais c'est comme quelque chose... comme s'il y avait ils mettent une distance. C'est des gens qui sont malades, entre guillemets.
Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord parce que dans les représentations qu'on a encore aujourd'hui, souvent santé mentale égale psychiatrie. La psychiatrie, c'est quand même une discipline extrêmement récente à l'échelle de l'humanité. Enfin, même s'il y avait des soucis déjà à l'antiquité de l'état psychique. Mais au fond, la psychiatrie en elle-même, telle qu'on la connaît, elle est relativement récente. Et elle est encore... l'idée de santé mentale est encore très associée à l'image qu'on a des aliénés, des gens enfermés, des médicaments, etc. Donc c'est pour ça qu'on lutte au quotidien, c'est notamment à ça que sert le Conseil local en santé mentale, c'est déconstruire ces idées-là, ces idées reçues, dire qu'on peut vivre de manière tout à fait satisfaisante et épanouie avec un trouble psychique. Il y a des gens qui souffrent d'une schizophrénie et qui ont construit une existence qui leur convient et qui les satisfait. Que tout ça, c'est beaucoup plus complexe, qu'il n'y a pas un « eux » et « nous ». Il n'y aurait pas les gens qui vont bien d'un côté et les fous de l'autre. Ça, c'est un vieux concept qui est très rassurant pour la société, mais qui n'est pas très vrai. Donc, on garde cette image-là parce que, encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas beaucoup d'autres options que d'enfermer les gens qui n'allaient pas bien. Aujourd'hui, il y a vraiment un autre travail qui est mené. La psychiatrie n'a plus grand-chose à voir avec l'idée qu'on s'en fait, mais il faut encore faire évoluer les mentalités et justement marteler, prendre le bâton de pèlerin et dire « c'est pas ça, il n'y a pas les fous et nous de l'autre côté ».
Effectivement, pour compléter ce que vient de dénoncer Émilie, énormément de personnes sont prises en charge, sont suivies à l'extérieur et ne sont pas suivies. Ils ne passent pas, certains, pour beaucoup, en hospitalisation. Et ça, c'est une notion importante, le suivi ambulatoire, la ville, en faisant le lien aussi avec le tissu associatif. Il y a énormément de dispositifs, d'outils en lien avec le soin qui permettent un suivi à l'extérieur, en ville, sans passer par cette représentation de l'hospitalisation qui est bien souvent erronée. Et sans rentrer dans le détail, l'hospitalisation aujourd'hui en psychiatrie, quand bien même elle se ferait, est très réglementée. énormément de textes de loi réglementent l'hospitalisation en psychiatrie et on n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait avant. Il y a l'intervention du juge des libertés, il y a différentes personnes qui interviennent au cours d'une hospitalisation pour vérifier le bien fondé, contrôler en lien avec la réglementation et tout ne peut pas se faire n'importe comment aujourd'hui et heureusement.
Et justement dans les...
Oui, je voudrais donner le chiffre. Oui. 86% pardon, des personnes prises en charge par la psychiatrie en France le sont en ambulatoire, c'est-à-dire que 86% des patients de la psychiatrie ne mettent jamais les pieds à l'hôpital. Voilà, donc ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on peut être pris en charge en ville, avoir un suivi parce qu'on a un moment où ça ne va pas, parce qu'on traverse une phase difficile, on perd quelqu'un, voilà. Donc... C'est important de souligner que cette image-là, elle est complètement fantasmée, on va dire.
Super. Et justement, ça rejoint le reportage qu'on a écouté tout à l'heure, où les activités, c'était beaucoup aussi de sport. Tout le monde parlait beaucoup de sport, et le sport a un impact justement très positif sur la santé mentale. C'est aussi un exutoire pour beaucoup. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui font du sport ?
Ouais, on est. Il y a moi, Youssef, du coup.
Ouais.
Après, je sais pas pour les autres, mais nous, on fait du sport. Moi, j'ai fait du football pendant 8 ans, ensuite de l'athlétisme, et j'ai fait du football avec Youssef. Donc, ouais, on est assez sportif. Et moi, à la fac, du coup, on nous a dit comme quoi on était la seule fac, parce que moi, je suis à Paris 1, et on m'a dit que c'était la seule fac qui avait laissé le sport en plein air. Durant le Covid, enfin toutes les autres facs elles ont fermé, ça reste à confirmer, mais il me semblait que c'était ça. Et donc moi j'ai pu avoir donc sport pendant le confinement, voilà, raison d'une fois par semaine. Donc voilà, j'étais pas totalement déconnecté non plus, mais je sais que je fais partie des quelques chanceux qui ont pu avoir ce privilège là au sein des universités.
Quels sont les bienfaits du sport sur la santé mentale ?
Sur la santé mentale, sur l'anxiété et la dépression, l'activité physique est reconnue, marche très bien. Il y a des tas de publications. Le dernier rapport 2019, février 2019 de l'INSERM, le met dans les 4 principales pathologies où elle intervient. Bien sûr, ça dépend des niveaux de pathologie. Mais sur le centre... et sur la plateforme Sport Santé qu'on a montée avec l'OMEPS à Nanterre. On a un accord avec l'hôpital pour les personnes en milieu ouvert, et on a régulièrement des gens, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément identifiés santé mentale, qui sont anxio-dépressifs ou un peu anxieux avec d'autres pathologies associées, de l'obésité, des problèmes rhumatologiques. Donc ça, c'est un ensemble, et on leur propose des activités physiques adaptées, de la remise à l'activité physique pour leur apprendre à, entre guillemets, des mots compliqués, gérer leur activité physique, c'est-à-dire en gros penser à faire du sport et à le faire à une intensité qui leur convient, qui leur correspond, et avec une variété d'exercices. Mais je reviens sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que deux choses. Premièrement, pour parler des jeunes, c'est une souffrance que de ne pas pouvoir pratiquer de l'activité physique, parce que c'est à la fois un exutoire, un lien social, un moyen de se retrouver. Et puis, quand on pratique de l'activité physique, le corps fabrique des endorphines, des hormones de bien-être. Donc on se sent mieux quand on a l'occasion de pouvoir pratiquer. Et la deuxième information, c'est au premier confinement, ils étaient un petit peu en retard, il a fallu que les médecins du sport se mobilisent, mais on a obtenu avec le Syndicat national des médecins du sport, le SNMS, qu'au deuxième confinement, les gens qui ont des problèmes de santé puissent pratiquer dans le cadre du sport santé. Alors est-ce que ça concerne les jeunes ? À partir du moment où on va vers des affections, des pathologies qui durent plus de 6 mois, on est en longue durée, on peut faire des prescriptions d'activité physique. Si on commence à dépister des signes de dépression, un quelque chose qui peut être mis en place, bien sûr, ça a été fait, c'est les numéros d'appel, les numéros d'écoute, parce que c'est ce que vous avez dit, il faut essayer d'échanger, de se rapprocher et de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Mais il y avait également la possibilité que le médecin fasse une prescription d'activité physique. On ne vous aurait pas proposé du football, mais on vous aurait proposé des activités physiques éventuellement en groupe à partir du moment où on était sûr que vous n'étiez pas vecteur du virus et donc vous rentriez avec un petit questionnaire pour être sûr que vous n'alliez pas transmettre aux autres un virus que personne ne veut avoir, même si les jeunes, quand ils sont touchés, il y a très très peu de conséquences, ni sur leur espérance de vie, ni sur la gravité de la maladie, ni sur les hospitalisations. C'est un pourcentage très faible, c'est pas la population la plus à risque. Donc on a le droit de leur proposer de l'activité physique aujourd'hui. Et on a le droit de leur prescrire de l'activité physique si on sent qu'ils sont un peu... Ils partent vers des pathologies un peu plus longues.
Mais ça a été quand même très compliqué d'adapter justement sa pratique sportive pendant, par exemple, le premier confinement. En plus, tout à l'heure, on parlait d'espace. Il y avait beaucoup de personnes qui, justement, n'avaient pas d'espace pour faire du sport. Puis on n'avait pas vraiment le droit non plus de sortir, si ce n'est pour des raisons spécifiques. Donc au bout d'un moment, on tourne. En rond, et on se rend compte que des personnes qui étaient peut-être aussi très actives, même en dehors du sport ou même dans une pratique sportive, par exemple pour des sportifs de haut niveau ou même des sportifs lambda, parce qu'on aime justement l'activité, ça a été très très compliqué. Et on a bien vu aussi que ça n'a pas forcément été très bien géré ou prioritaire sur une politique en fait aussi à l'échelle nationale.
Ouais, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Amina, je suis tout à fait d'accord. Enfin, on avait vraiment, comme on le disait, QCF, les cours en distanciel. On était chez nous, enfermés pendant 6, 7, 8 heures, ça dépend des cours de chacun, devant un écran toute la journée. On se sentait vraiment un peu déprimé. Et moi, pour ma part, comme je disais, j'avais cours en plein air une fois par semaine, c'était du football. C'était vraiment le moment que j'attendais dans la semaine. C'était vraiment ça. Pendant le confinement et toute cette période-là de décembre, etc., c'est vraiment le moment qu'on attendait parce qu'on se faisait plaisir. Voilà, il y avait aussi cet aspect-là santé mentale où vraiment ça nous rendait joyeux, tout simplement. Ça nous faisait oublier tout ce train-train quotidien de rentrer chez soi, être sur l'ordinateur, etc. C'était vraiment un exutoire. Donc, c'est vraiment le moment, en tout cas moi, que j'attendais dans la semaine.
Et justement, ouais, Lounès.
Moi, c'est pareil. Au lycée, il y avait, en fait, avec les demi-jours, le problème, c'est que l'EPS au lycée, c'était la seule manière que j'avais durant cette période de faire du sport. Et avec cette demi-jauge, moi, c'était une semaine que le matin ou une semaine que l'après-midi. Et comme j'avais sport le matin, c'était du coup sport une semaine. Enfin, normalement, c'est 2 heures. Et le gouverneur m'a réduit 30 minutes. Donc, ça fait 1h30 toutes les 2 semaines au lieu de 2 heures chaque semaine. Et malgré ce fait-là que c'était très court, c'était, comme tu as dit, Rachid, le moment qu'on attendait tous. Et d'autant plus que, comme le gouvernement interdit le sport en gymnase, en intérieur, du coup, on faisait des activités en extérieur et c'était vraiment, pas forcément l'activité en soi, mais surtout voir des gens et pratiquer ensemble. Ça, franchement, ça fait du bien, quoi.
Voilà.
Moi, du coup, j'étais, enfin, on va dire ça comme ça, j'étais privé de sport parce que tout a fermé dans ma fac. Les activités sportives, ils ont fermé. Du coup, même mon club de foot à Stein, les joueurs, ils étaient plus motivés du tout. Du coup, le moment pour moi venu, c'était les distributions alimentaires le samedi avec mon association. Et en gros, j'avais que ça pour me détendre et me lâcher durant la semaine. Du coup, ça vous laisse une vision des choses et l'ampleur que ça prend actuellement.
Et justement, Marguin, vous êtes aussi conférencier sur... le sport et la santé, pourquoi, en quoi c'est important aujourd'hui de faire justement, après tout ce qu'on vient d'entendre, sur le fait qu'on se rend compte que c'est quand même assez indispensable d'avoir une activité sportive et qui plus est, en fait, il parle beaucoup du sport en équipe, donc du lien social.
Alors, il faut reprendre un petit peu l'historique de l'affaire. Donc, on découvre un virus à Wuhan qui ne devait jamais franchir les frontières, ou en tout cas quand il allait franchir les frontières, on allait voir ce qu'on allait voir avec le service de santé français. Ça allait être une petite merveille, et donc c'était peut-être pas la peine d'être aussi maximaliste que ces braves Chinois qui avaient confiné 60 millions d'individus, soit la France, de manière stricte et rigoureuse dans la province de Wuhan. Quand c'est arrivé, ben, nos braves piou-piou se sont répandus sur les ondes pour dire le contraire et le contraire de tout, puisqu'on ne connaissait rien, ou très peu, on n'avait pas de recul. On a légitimement eu peur, et donc tout le monde a fermé les écoutilles. Il y a eu des comportements, les gens partaient avec des camions à la campagne quand ils avaient la possibilité de s'enfermer à la campagne et avec du ravitaillement. Les autres s'enfermaient chez eux, et celui qui avait le malheur, il n'y avait pas de masque à l'époque, mais de déroger aux gestes barrières était fusillé socialement. Le deuxième confinement, ça s'est calmé un peu parce qu'on a quand même vu que le taux d'incidence sur les décès était faible. Et puis, le troisième temps, c'est on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Soit la vie est impossible, on est face à la peste, on est face à Ebola, on est face à des choses qu'on n'arrive pas à contrôler et ça va être terrible. Soit va falloir vivre avec. C'est ce qui se passe dans le troisième et le quatrième confinement. C'est pas pour ça qu'il faut lever les précautions, c'est pas pour ça qu'il faut relâcher tout, mais entre le verrouillage qu'on a connu avec des interrogations pour protéger, moi j'étais à la fac dans le conseil d'université, donc j'ai pu participer au débat où on protégeait les étudiants, mais les étudiants à l'époque, ils avaient une chance sur 6 millions de mourir en ayant attrapé le Covid, c'était les stats, en prenant les tranches d'âge. Donc, il y avait quand même un petit peu d'énervement et de précipitation à tout interdire. Bon, ils ont pris les décisions qu'ils ont prises, ils ont fait comme ils ont pu, les conseils scientifiques s'est réunis, ils n'étaient pas d'accord entre eux, tous les gens qui passaient à la télé disaient un peu tout et le contraire de tout. Donc, moi, j'ai des très bons copains qui sont passés pour des imbéciles, c'est pourtant des gens extrêmement intelligents, très performants, professeurs. Mais ils n'étaient pas dans l'air du temps vis-à-vis des journalistes, donc leur discours n'a pas été entendu. Pourtant, c'est des gens qu'on peut considérer comme sérieux. Il y en avait d'autres qu'on peut considérer comme sérieux qui disaient autre chose. Aujourd'hui, on est dans un dispositif, on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous proposer, puisqu'il y a le variant Delta, dont on nous parle beaucoup. Mais moi, je maintiens que, quoi qu'il arrive, faut essayer de faire de l'activité physique, parce que soit de manière individuelle, soit avec les copains, soit avec les copains en prenant des précautions, et c'est possible. Et a priori, pour ce qui concerne les cours qui sont dispensés dans le cadre du sport santé, on n'a eu aucun cas de contamination.
Donc c'est possible.
Oui, oui, c'est tout à fait jouable et possible. Et puis pour les jeunes, c'est tout à fait possible aussi. Aller au footing, éventuellement respecter des espacements si on ne sait pas trop comment. Mais eux, statistiquement, attendons d'en savoir plus, mais pour le moment, statistiquement, les tranches d'âge inférieures à 30 ans ne sont pas très touchées. Et donc, faites du sport, pourquoi alors? Parce que c'est le meilleur des médicaments, aussi bien en termes de prévention primaire quand il n'y a pas de pathologie, ça évite d'être malade, ça améliore la condition physique, que quand les pathologies arrivent, les gens obèses, le traitement, c'est évidemment du soutien psychologique, parce que c'est très comportemental, l'obésité, surtout dans notre société, mais c'est aussi de l'activité physique et des recommandations diététiques. Et quand l'obésité est installée, la seule manière d'assurer des résultats de perte de poids dans la durée, c'est d'assurer la pérennisation des conseils alimentaires et de l'activité physique. Si vous arrêtez le traitement, ben vous reprenez votre poids. Ça permet de prévenir le diabète. Le premier traitement du diabète, c'est conseil alimentaire, activité physique. L'hypertension artérielle modérée, le premier traitement de l'hypertension artérielle modérée, c'est activité physique, bon sommeil, recommandations alimentaires. On retombe toujours sur les mêmes choses, ce sont des fondamentaux. Ce qui est bizarre, ce qui est étrange, c'est qu'il a fallu... Moi, j'ai démarré mes études de médecine il y a des années et des années, donc je ne vais pas me remonter aux années 67. Mais à l'époque, je passais pour un zombie parce que je disais des choses aussi simples que ça et je les ai toujours dites. On a eu la chance d'ouvrir un centre médico-sportif en 85 à Nanterre et on a toujours tenu ce langage de santé publique et de sport santé avant même que le concept soit développé et voté à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 articles qui paraissent réguliers. Il y a 10 000 publications internationales. On est passé de 26 pathologies chroniques à 40 pathologies chroniques pour lesquelles l'activité physique a un effet bénéfique. Alors, il n'y a pas que le sport. Mais le sport, en milieu urbain, c'est le meilleur moyen de pérenniser l'activité physique. Ouais. Je veux pas être trop long, donc. Si vous voulez, je peux rester un petit peu.
Non, mais on l'a bien vu, même là, par exemple, sur le pass sanitaire, ils veulent mettre en place le fait que maintenant, les personnes qui veulent aller, par exemple, faire une activité sportive ou en tout cas en salle de sport, il faudra avoir ce pass sanitaire. Pendant le confinement, ça a été totalement fermé. Puis ensuite, quand ils ont ouvert uniquement du coup aux personnes qui du coup, dans le cadre
de la santé.
Sauf qu'en fait. Parfois, c'est vraiment un... Ça fait du bien. Je pense que chacun, quand on... Ça peut être de la marche, hein. Franchement, comme un cours de boxe ou une séance en faisant du foot. Enfin, voilà. Mais ça a un réel impact. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui en France, contrairement à d'autres pays, c'est pas inclus justement dans une politique pour aller mieux et aussi pour vaincre cette pandémie, parce que ça joue, ça a un impact sur défense immunitaire, c'est un impact sur même la santé mentale, sur beaucoup de choses. Et c'est pas aujourd'hui en France, qui est quand même une grande nation, on voit dans des pays voisins, les gens pouvaient aller faire leur sport. En France, non.
Il y a quand même eu beaucoup de gens qui se sont mis à la course à pied. Hein, ça. Moi, pendant le confinement, on avait le droit à une heure de sortie ou je ne sais plus combien de sorties.
Tout le monde s'est mis à courir.
Donc, je pense quand même qu'il y a eu un mouvement. Je vais juste vous raconter une toute petite anecdote. Donc, le Conseil local en santé mentale, c'est un dispositif participatif auquel normalement participent les usagers, les gens qui ont eu affaire avec la psychiatrie ou comme les adhérents du GEM, des gens qui sont en fragilité psychique. Et j'avais été les rencontrer il y a quelques temps de ça pour leur expliquer le dispositif, comment ça fonctionne, quels sont les sujets dans lesquels ils peuvent s'impliquer. Puis, bon, j'ai reçu un accueil un peu, on va dire un peu tiède. Ils me regardaient, genre ils ne voyaient pas bien de là où je voulais les emmener. Et c'était l'époque de la Coupe du Monde. Et de fil en aiguille, on s'est mis à parler de sport. Et là, tout d'un coup, les conversations se sont réveillées. J'ai senti que j'avais touché un truc. Et tous, petit à petit, ont commencé à dire « Bah non, mais moi, je prends un traitement. Du coup, j'ai grossi. Du coup, j'ose plus faire de sport. Oh, bah moi, j'aimerais bien, mais je sais pas où faut aller, etc. » Enfin, voilà, de fil en aiguille. Et on a mis en place, avec ma collègue Elisabeth de la mission Handicap, une journée sport adaptée avec la Fédération française de sport adapté. Et en fait, ça a été une journée incroyable. La ville nous avait prêté un super lieu. Et plein d'institutions de la ville qui sont venues comme ça avec les patients ou les usagers qu'on fait des ateliers sportifs toute la journée. Et on voit à quel point ça produit en fait une émulation, à quel point les gens étaient joyeux à la fin de la journée d'avoir pu se dépenser, découvrir des activités. Il y avait du tir à l'arc, enfin, des choses qu'ils n'avaient jamais faites. C'est vraiment, j'en garde une expérience très, très positive que nous devions évidemment remettre en place en 2020. Et qu'on n'a pas pu, vous vous en doutez, renouveler.
Tu as dit l'essentiel, c'est que c'est plutôt... les gens se sont adaptés, ont fait du sport. J'espère qu'on arrivera à faire valoir l'intérêt de l'activité physique comme moyen de santé. Et effectivement, c'est un moyen de développement de l'immunité. Il y a des manières de travailler pour développer l'immunité. Mais en gros, c'est ceux qu'on adopte naturellement. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est faites de l'activité physique, faites-vous plaisir. Et si vous vous faites plaisir, vous êtes en train d'améliorer votre santé mentale, votre métabolisme du sucre, votre immunité, vos capacités cardiaques et encore plein d'autres choses qui sont très utiles à votre santé. Donc, faites-vous plaisir en faisant de l'activité physique.
Sur le plan du soin, moi je vais juste faire un parallèle aussi par rapport à cette notion-là du sport. Sur le plan du soin, nous aussi, alors moi je vais parler sur le registre de l'hospitalisation. Bien qu'évidemment, comme on l'a évoqué avant, il y a différentes étapes et différentes possibilités et tout le monde ne passe pas par une hospitalisation. Mais en tout cas, cette prédominance du sport, cette notion du sport aussi est fondamentalement intégrée dans nos prises en charge. Et évidemment, on prône en complémentarité avec la prise en charge médicale, paramédicale, d'initier des séances de sport sous prescription médicale aussi, si l'état physique le permet. Et donc, travailler cette dimension-là aussi permet d'apporter un outil d'évaluation complémentaire et permet aussi de retrouver une hygiène de vie, certains éléments qui pourront être évidemment poursuivis à l'extérieur, en ville, ou dans son activité quotidienne par la suite.
Merci. Et justement, pour compléter ces propos, on va écouter Ben, qui est coach justement à Nanterre et qui revient sur les bienfaits du sport sur la santé mentale.
Bah, moi, c'est Ben Coach. Donc, je fais du coaching. J'ai commencé par de l'athlétisme et plein d'autres sports. En fait, on est affecté de nos jours mentalement de par le stress, le travail. On n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de soi-même, ce qui fait qu'on accumule énormément de stress. Et comment évacuer tout ça? Bah pour moi, le sport, c'est un très très bon outil pour pouvoir évacuer, je vais pas dire un minimum, mais un maximum de stress. Les personnes de nos jours ne pensent plus à eux-mêmes. Et il faut avoir ne serait-ce que 45 ou une heure où on décompresse, essayer d'oublier et de faire des efforts. Peu importe le sport. Hein. Après, moi, je suis pas un pro. Tiens, tu dois faire de la muscule. Tiens, tu dois faire ça. Tu dois faire ci. Peu importe le sport, mais il faut faire quelque chose. Ça peut être de la marche. Ça peut être du running. Ça peut être de la muscu. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il faut trouver un moyen de s'échapper. Il faut changer son objectif. Mais ils oublient que leur corps est le premier outil de leur vie. C'est un mal pour un, si on peut dire ça, pour un bien, on va dire, ce qui s'est passé. Mais ça a fait réaliser à certaines personnes que c'était important de s'occuper de soi-même et que c'est pas le travail qui allait s'occuper de vous. Les salles, elles ont été fermées. L'activité, on pouvait plus en faire. Je trouve ça un peu contradictoire parce que on est éduqué en France par l'école. À l'école, bah, le sport fait partie de l'éducation. Pour lutter contre l'obésité et certaines maladies. Donc on en fait dès la maternelle, on va dire. Tout a été fermé, ça n'arrange pas les choses.
En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Du coup, en conclusion, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Même si personne n'est heureux tous les jours de sa vie, la santé mentale fluctue et c'est normal. On l'a bien justement entendu et on garde le message de rester positif. Pratiquer une activité sportive, même si c'est de la marche, et en tout cas de profiter de la vie et d'essayer d'être heureux au maximum, même si la santé mentale est encore un sujet tabou pour certains et mal considéré, car elle est plus vue comme une maladie. Aujourd'hui, comme il a été dit, il n'y a pas de santé sans santé mentale. On se retrouve très vite sur Radio Agora.